Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes au musée de Di et du Diwa et nous sommes dans une salle qui semble être une bibliothèque. Henri Desailles, en compagnie de Juliette Laburte, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et vous êtes ici en tant que service civique au sein du musée de Di.
Oui, tout à fait. En fait, je suis lauréate du concours d'assistant principal de conservation de la fonction publique. Et j'ai choisi, en attendant de trouver un poste qui me permettrait d'être titularisée, de faire un service civique donc au musée de Di et du Diwa.
Nous avons aussi Manon Vialet qui est en stage aussi au sein du musée. Bonjour.
Bonjour. Oui, donc moi je suis là dans mon cadre de stage de fin d'études. Donc je fais un master métier du patrimoine à l'université de Chambéry. Et je me destine plutôt à travailler dans la médiation, donc autour de l'archéologie, plutôt de la préhistoire, mais l'archéologie en général. Et c'est pour ça que j'ai choisi le musée de Di pour mon stage de fin d'études.
Vous parlez de médiation, est-ce que vous pouvez peut-être approfondir ce que c'est?
Oui, alors la médiation c'est tout ce qui est... travail, transmission auprès du public de tout ce qui est relatif au patrimoine, à l'histoire. Donc ça consiste à par exemple faire des visites guidées ou mettre en place des animations donc, comme on a au musée, dont on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc tout ce genre, tout ce qui est interaction auprès du public.
Et puis vous êtes aussi ici pour vous occuper des animations proposées pendant l'été. Alors chacune s'occupe de quoi précisément?
Alors moi en tant que service civique j'apporte plutôt une aide à l'animation. Mais voilà, on a différents ateliers, différentes animations dans le musée. On peut proposer par exemple un escape game donc, qui a lieu les mercredis et les samedis après-midi. De 14h30 à 17h avec 2 séances, donc à destination des familles. On peut également proposer un jeu d'enquête médiévale les jeudis après-midi, donc de 15h à 17h, et pareil pour un public familial.
On a ensuite donc un club archéo, donc ça c'est plutôt à destination des enfants. Donc ce sont des ateliers qui mêlent pratique, donc ateliers créatifs et partie plus explicative, donc autour d'un thème. Donc chaque semaine, on va essayer de varier les thèmes. Pour l'instant, on a prévu un atelier autour des armoiries, un autre autour de la mosaïque. Et donc c'est le mercredi matin. Donc ça permet en mêlant visite du musée et pratique, de proposer aux enfants des activités pratiques.
Cette activité de l'archéologie, de l'histoire, ça c'est un domaine qui vous intéresse amplement, je suppose, Juliette.
Oui, tout à fait. Moi, c'est depuis l'enfance, j'ai toujours été très attirée par le milieu du patrimoine. Et donc oui, plus tard, c'est vraiment dans un musée dans lequel je travaillais, archéologique ou beaux-arts. Puisque je suis assez intéressée par la période médiévale. Oui, voilà.
Et vous, Manon, donc, cet intérêt pour l'histoire?
Pareil, moi, c'est plutôt l'archéologie en soi. Donc, pareil, depuis que, quand j'étais petite. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une licence en archéologie. Et après, je me suis rendu compte que je ne voulais pas spécialement travailler dans la recherche. C'est pour ça que je me suis réorientée plus dans la médiation. Pour... diffuser auprès des gens un peu les découvertes qui se font dans ce domaine.
À propos du club archéo, donc un atelier créatif pour des enfants sur l'histoire et l'art et l'archéologie, vous proposez donc des ateliers, je suppose, et qui consisteraient en quoi?
Alors nos ateliers, ils auront lieu en même temps que le marché. Donc ça peut être pratique pour les parents de faire leur marché, tout en laissant leurs enfants pendant 2 heures apprendre des choses et puis créer au musée. Alors donc à chaque fois on va construire ces ateliers un peu en deux parties. avec une partie qui est vraiment autour des collections du musée. Par exemple, pour un atelier sur les blasons, on va montrer les blasons qui sont au musée, les blasons, par exemple, locaux de la ville de Die. Où on va faire un atelier sur les fossiles aussi, on a des petites collections de fossiles, donc on va montrer aux enfants les fossiles du musée, on va leur expliquer un petit peu comment ça se forme. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment un atelier créatif, donc pour l'atelier blason, par exemple, la création par les enfants de leur blason, avec le choix des meubles, donc des motifs à mettre sur le blason, le choix de la forme du blason. Et puis pour l'atelier fossile, par exemple, on va réaliser des fossiles en plâtre et puis ils pourront peindre les fossiles, choisir donc leurs fossiles. Voilà.
Alors Jacques Planchon, vous êtes directeur du musée de Die et du Diois, et nous sommes d'ailleurs dans la bibliothèque Henri Desailles, si je prononce bien.
Henri Desailles. Qui était mon prédécesseur au musée.
Oui.
Et on a voulu lui rendre hommage, hommage à son travail surtout, parce qu'il a quand même officié au musée en tant que conservateur pendant 37 ans. Et conservateur bénévole, c'était l'usage à l'époque. Donc il a beaucoup donné de sa personne. Il a rassemblé énormément de documentation et cette documentation a servi de base au fonds documentaire actuel du musée qui s'est enrichi avec un certain nombre de dons successifs.
Et donc c'est un lieu de recherche ici, dans cette salle, avec des étagères jusqu'au plafond et des ouvrages de différentes époques. Les plus anciens datent d'environ de quelle période ?
Alors je pense que le plus ancien qu'on conserve ici, c'est un bréviaire de la cathédrale de Die qui date de 1532. Et encore parce qu'on n'a pas réussi à remettre la main sur l'autre bréviaire de 1498. Mais ça, c'est des documents un peu exceptionnels. Et par contre, la plupart des livres qui sont conservés ici sont 19e et 20e siècle. C'est plusieurs bibliothèques. Donc on a un fonds qui est archéologie en général, un fonds historique, enfin qui parle quand même beaucoup de l'histoire de Die et du Diois, de la Drôme, du Dauphiné. Et puis évidemment tout le fonds local, avec en plus un versement de la médiathèque départementale qui a versé au musée toute une partie de son fonds local quand elle a réaménagé ses locaux. Donc il y a très peu de temps en fait.
L'écriture au niveau de la population lui a été accessible à partir de quelle période ? Et est-ce que depuis là, justement, vous commencez à avoir aussi des écrits de personnes non officielles ou de simples habitants ?
Alors là, on parle plutôt des collections et pas du fonds documentaire, mais en effet, l'écriture arrive dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, peut-être 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ici, on en a très peu d'éléments. À l'époque, les Gaulois écrivent en grec quand ils écrivent. Et on a très, très peu d'éléments, mais on a quelques vases sur lesquels les gens ont inscrit leur nom, en général. Il faut imaginer que ça fonctionne un peu comme dans nos fêtes. Hein. On a un gobelet, on met son nom au marqueur dessus, histoire de pouvoir finir la soirée avec le même gobelet. Donc, pour l'âge du fer, on a le même type de comportement. Et ensuite, l'écriture n'arrive véritablement et ne se répand véritablement qu'à partir de l'époque romaine. C'est-à-dire au plus tôt, 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais à partir de là, oui, on a pas mal d'inscriptions, notamment des inscriptions funéraires. Et on a des graphies qui évoluent, des termes qui évoluent. Et on voit l'écriture se répandre peu à peu dans la population avec un taux d'alphabétisation qui augmente en permanence. Et puis après, au Moyen-Âge, ça se réduit. Les gens lisent et écrivent beaucoup moins, et ça revient à partir du XVIe, XVIIe siècle. Là, avec énormément d'archives aussi qui sont conservées, entre autres, au musée.
Là, je reviens sur les animations. On abordait le sujet des armoiries de Die. Et je demandais justement, est-ce qu'il y a, on voit aussi une évolution de l'armoirie du Die depuis l'existence de cette ville ?
Alors, une évolution des armoiries, localement, il n'y a rien de spécial. En fait, ça suit l'évolution générale des logos familiaux sur l'ensemble de l'Europe. Donc oui, en effet, on a quelques documents un petit peu anciens sur lesquels on a des écus qui sont dessinés à l'ancienne. Et puis la forme des écus va évoluer avec le temps. On ne dessine plus ce bouclier de la même façon au XVIIIe qu'on le dessinait au XIVe siècle. Et puis on va voir aussi beaucoup de familles nouvelles, c'est-à-dire des bourgeois qui arrivent à intégrer la noblesse et qui donc accèdent à la possibilité de porter des armes. des armes, à la fois une épée au côté, mais aussi justement des armoiries. Et c'est vrai que là, on a une évolution, mais qui est générale pour l'Europe. En France, c'est plus une arme et plus des armoiries sont complexes, plus on a quelque chose de récent. En général, les armoiries anciennes, c'est juste un fond coloré et un objet représenté dessus, on appelle ça un meuble. Mais quand on avance dans le temps, on a de plus en plus de choses, des chevrons, des bandes, des chefs, des décors particuliers, etc. Donc ça finit par fourmiller, et puis ensuite les familles s'allient entre elles. Et à la fin, les armoiries deviennent extrêmement complexes parce que sur le même écu, on va pouvoir avoir 60 armes familiales différentes. Donc ça se complexifie assez vite. Mais là, c'est plutôt en fin de période, à partir du 15e, 16e siècle, où on commence à mélanger les armoiries.
De nos jours, l'armoirie a toujours une existence reconnue, officielle. Et qui est en charge, justement, de proposer celles qui sont créées de nos jours ?
Alors je vais répondre d'abord en fonctionnaire municipal, c'est-à-dire en républicain convaincu. La République ne reconnaît pas la noblesse et ne reconnaît donc pas, parce qu'il n'y a pas d'utilité pour ça, les logos familiaux. Puisque c'est des armoiries, c'est un logo familial. Hein. Ça marche exactement comme un logo d'entreprise. Sauf que officiellement, du point de vue de la République, je ne suis pas certain qu'il y ait un endroit où on puisse déposer son logo familial. Et encore. Après, il existe en effet toute une administration non républicaine autour de la noblesse et de ses logos familiaux. Sinon, le devenir des armoiries, je viens d'en parler, hein, c'est le logo, c'est-à-dire toute cette iconographie, que ce soit du panneau de signalisation, que ce soit des logos d'entreprise, que ce soit, enfin, etc. Tous ces signes-là, c'est des signaux qui indiquent des informations et ça participe du même... de la même volonté que les armoiries, c'est-à-dire on affiche son signe distinctif d'une façon ou d'une autre. C'est rien de plus que ça.
Alors ça, c'est pour l'atelier. Donc les enfants, on leur propose à reproduire ce blason ou alors est-ce qu'on leur demande d'en créer un ?
Alors c'est plutôt de la création. On leur demande donc de créer leur propre blason. On leur demande donc de choisir la forme de l'écu entre l'écu... du ancien, l'écu du français moderne, on a aussi l'écu anglais, l'écu espagnol. Et puis on leur demande de choisir les meubles qu'ils vont mettre dessus, donc les motifs. Par exemple, s'ils veulent mettre un lion, un dragon, une fleur, ou une fleur de lys. Et puis après, ils vont donc peindre les écus, peindre les meubles. Et puis emporter voilà, leur blason créé chez eux.
Ensuite, le jeu d'enquête médiévale, hein, vous parliez tout à l'heure, c'est en quelque sorte l'escape game ?
Alors c'est un peu différent, donc c'est un jeu, donc c'est bon, le même principe, mais qui va se dérouler là dans tout le musée. On n'est plus seulement dans la cave, donc accompagné d'un médiateur. Et donc on dissimule tout un tas d'indices, d'énigmes que les joueurs doivent résoudre pour avancer. Donc ça les mène de salle en salle dans le musée. Et ça leur permet de résoudre donc le scénario, on va dire, le mystère de ce jeu d'énigmes qui est donc l'assassinat d'un évêque. Donc un évêque qui a été assassiné à Die au XIIIe siècle. Donc c'est une vraie, un vrai fait historique, mais qui a été donc ensuite retravaillé... de manière fictive, donc on a inventé toute une histoire autour en nous aidant et en nous basant donc sur les collections du musée. Donc c'est une manière de visiter le musée de manière un peu ludique, de s'intéresser aux collections et tout en résolvant donc cette énigme, cette enquête.
Quelle est la part d'histoire justement ? Est-ce que vous amenez ces ateliers avec un contexte historique ou de rappeler un peu certains faits d'histoire pour cette proposition d'atelier ?
Pour les ateliers donc Club Archéo, oui, il y a toute une première partie qui est donc historique. Évidemment, on explique donc là, comme on parlait des armoiries, donc ce qu'est donc que sont les armoiries, comment c'est fait, comment ça se construit. Et il y a donc toute une partie qui va être donc d'aller dans le musée, dans les salles, voir ces armoiries, donc celles qu'on a dans la ville, enfin celles qui ont été retrouvées donc de familles de la ville, et donc d'expliquer aux enfants. Et c'est pour ça qu'après ils peuvent créer avec leur propre selon leur propre envie.
En dehors de ces ateliers, le musée est aussi un lieu de visite avec ses collections. Comment cela se passe aujourd'hui, de nos jours, et puis cet été aussi, qu'est-ce qui est proposé en avant ?
Alors, il y a la possibilité donc pour les visiteurs de découvrir le musée par eux-mêmes, donc dans des visites libres. Et puis, il y a la possibilité d'avoir une visite guidée, donc accompagnée d'un médiateur qui raconte l'histoire d'Audi à travers ses collections. Et donc voilà, les visites guidées, c'est de 17h à 18h, donc tous les jours d'ouverture du musée, donc du mardi au samedi.
Est-ce qu'il y a des indications à donner aux visiteurs qui nous entendraient?
Alors oui, c'est vrai qu'on traverse une période un petit peu particulière et le musée n'échappe pas aux mesures sanitaires actuelles. Donc les visites sont tout à fait possibles. Simplement, le port du masque reste obligatoire, en tout cas pour toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à partir de je sais plus quel âge d'ailleurs, c'est 11 ans, à partir de 11 ans. Depuis quelques jours, nous sommes tenus aussi de contrôler les passes sanitaires, comme l'ensemble des lieux culturels en France. Donc voilà, ben on va le faire le plus aimablement possible. C'est une contrainte supplémentaire pour nous comme pour les visiteurs, mais le but c'est quand même que les choses se passent au mieux. Donc ben voilà, on va faire avec.
Il y a aussi les événements de la rentrée, il y aura les journées du patrimoine, je suppose. Est-ce que vous avez déjà quelques pistes au niveau de l'organisation?
Alors pour les journées du patrimoine, on aura sans doute un programme qui sera un petit peu le même que les années précédentes, sous réserve évidemment que les conditions sanitaires nous laissent faire les choses tranquillement, en sachant que sur Die, depuis quelques années maintenant, le week-end des journées du patrimoine est devenu un gros gros week-end, puisque on a à la fois cette manifestation nationale, mais on a une autre manifestation nationale qui est la Dromoise, donc une course cycliste, et que le théâtre accompagne avec des animations de rue. Donc c'est vrai que c'est le week-end où il se passe vraiment quelque chose à Die en fin d'été. Et ça fait beaucoup d'animations en ville, beaucoup de choses à voir. Donc les journées du patrimoine vont se passer avec sans doute un programme qui sera le moins réduit possible, et avec pour la deuxième année l'intervention aussi de toute l'équipe qui travaille sur le matrimoine, c'est-à-dire ce patrimoine féminin laissé dans l'histoire et qui généralement est relativement discret parce que pour des raisons qui m'échappent, l'histoire a toujours été écrite par les hommes et manifestement pour les hommes. Donc il y a tout un travail de recomposition de l'histoire pour remettre les femmes à leur place dans ce vaste discours. Donc là, pour la deuxième année, en effet, on va avoir des animations proposées par l'équipe du matrimoine et c'est une très bonne chose.
Le musée du Die et du Diois implique donc aussi un rayonnement en dehors de la ville. Et est-ce qu'il y a des points qui sont justement sous l'égide du musée?
Alors c'est vrai que le musée a une petite antenne à Lucandiwa. C'est un atelier de bourrelier qui a été remonté dans un espace muséographié qui se trouve rue des Écoles à Luc et qui normalement est ouvert à la visite tout l'été. C'est une visite libre. Et si c'est fermé, il faut demander l'ouverture à l'office du tourisme ou à la mairie. Donc là, les collections sont des collections du musée, le bâtiment est municipal, donc c'est un partenariat entre la ville de Luc et la ville de Die pour la mise en place de cet atelier. Et puis, sinon, l'assiette, le territoire du musée, c'est l'ensemble du Diois. Et quand je parle du Diois, c'est pas seulement la communauté de communes ou le pays Diois, c'est l'ancien diocèse médiéval qui recouvre aussi le Crétois, le Vercors, Dieulfit, Bordeaux, et même éventuellement le Trièves et une petite partie du Beauchesne. Donc c'est un immense territoire. Alors évidemment, le musée ne regroupe pas toutes les collections qui viennent de ce territoire-là, mais ça fait partie du discours général, historique, qu'on peut entendre au musée, parce qu'on ne va pas parler évidemment que de la ville de Die, on va parler de l'ensemble de ce territoire qui dépendait de la ville de Die.
Par rapport à la salle Henri de Sées, c'est un lieu de travail. Une collection de combien d'ouvrages environ?
Alors désolé, j'ai pas révisé avant l'interview. On est de toute façon à plus de 3000 ouvrages, ça c'est clair. Et c'est en augmentation constante, puisque les vieilles familles d'Ivoise ont souvent dans leur bibliothèque un certain nombre d'ouvrages qui parlent du Diois ou du Dauphiné et que le musée ne possède pas encore. Et certains ont l'amabilité de compléter cette collection en faisant don d'une partie de leurs ouvrages, ce qui est extrêmement apprécié et ce qui permet à cette bibliothèque de continuer à s'élargir et à répondre au mieux aux besoins des étudiants, des chercheurs ou des simples curieux, des amateurs de généalogie ou d'histoire locale, qui peuvent venir prendre un rendez-vous pour consulter sur place. Par contre, c'est bien un fonds documentaire, ce n'est pas une bibliothèque de prêt, donc les documents sont tous accessibles, mais uniquement sur place et sur rendez-vous.
Tout à l'heure, on a abordé les ateliers pour enfants, donc le club archéo, le jeu d'enquête médiévale. Vous en avez d'autres en proposition ou à venir aussi. Et comment se passent justement les inscriptions pour ces ateliers, ces animations?
Alors non, on n'a pas d'autres choses parce que c'est déjà beaucoup, hein, l'escape game, leur club archéo et le jeu d'enquête médiévale. Mais voilà, après, pour y participer, c'est sur réservation. Donc le mieux, c'est quand même d'appeler le musée et de réserver une plage à l'avance, voilà. En contactant donc le musée au 04 75 22 40 05. Et puis pour l'escape game, comme c'est un jeu qui rencontre beaucoup de succès, il vaut mieux quand même réserver au moins une semaine à l'avance.
Ça a commencé très tôt pour vous, la passion pour l'histoire, l'archéologie ?
Chez moi, oui. Je viens d'une famille qui a l'habitude de visiter les musées. Donc, dès petite, j'ai été habituée à la visite du musée, à la visite des monuments historiques. Et donc, c'est quelque chose qui m'est paru assez naturel de m'orienter dans cette voie-là. Et puis, voilà.
Alors moi, pareil, l'archéologie, j'ai commencé à être intéressée par ça dans l'enfance. Après, il y a eu une période où c'était pas devenu... on va dire, je me suis pas orientée tout de suite dedans dans les études. J'ai d'abord fait un parcours un peu plus scientifique dans la biologie. Et voyant que ça ne me plaisait pas, c'est là que je me suis orientée pour partir en archéologie. J'ai décidé de continuer dans cette voie aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Voilà.
Cet aspect de musée, c'est aussi un lieu où sont entreposés des objets du passé. Au revoir. Et puis de catégoriser aussi l'objet, de le décrire aussi. Enfin, ce travail ou cette approche de l'objet, parce qu'on parle avant tout d'objet, qu'est-ce qui vous fascine? C'est ça, par exemple, son inexistence d'aujourd'hui, ou alors l'aspect mystérieux de cet objet, puisqu'il n'est plus de cours de nos jours.
Moi, ce qui me fascine surtout, c'est ce que l'objet peut nous dire des populations, des civilisations, des gens qui étaient là avant nous, de nos ancêtres en quelque sorte. Puisque un objet, que ce soit une œuvre d'art ou un objet quotidien qui a été utilisé par les gens d'avant, c'est toujours un peu la trace d'un artiste ou d'un artisan. C'est une trace de cette personne. Et c'est un peu émouvant, je pense, de travailler sur ces objets-là.
Moi, ma réponse va être similaire à celle de Juliette. C'est ce que les objets peuvent nous apprendre sur la manière de penser, donc de travailler des populations anciennes. Enfin, c'est notamment ma passion, c'est plus la préhistoire, donc période pour laquelle on n'a pas de traces écrites, donc on ne connaît pas en fait leur mode de pensée. Et c'est comment, à partir donc d'objets, de vestiges qu'on va retrouver, essayer de comprendre comment ces populations vivaient et pensaient. Et voilà.
Et donc, votre activité, en parallèle de cette étude sur l'objet, vous essayez de vous documenter, soit par écrit, soit par iconographie, je suppose, pour essayer de trouver cet objet dans des représentations ou dans des écrits anciens.
Alors, je ne sais pas trop si la question c'est dans le cadre de mes études, ma volonté de travailler dans le musée, ou si c'est dans le cadre de mon service civique ici au musée. Pendant mon service civique, j'apporte plutôt une aide Au musée, après, dans le cadre de mes études, j'ai fait un mémoire, par exemple, sur des enluminures médiévales. Et donc là, c'était un travail à la fois iconographique, puisque je travaillais sur les enluminures, un travail de comparaison avec d'autres enluminures existantes à la même période, donc du début du XVe siècle, pour mon manuscrit à moi. Enfin, mon manuscrit, le manuscrit que j'étudiais. Et puis un travail de documentation ancienne, puisque quand on travaille sur des enluminures, sur un manuscrit, c'est quand même intéressant de savoir de quoi parle le manuscrit. Donc un travail de paléographie pour lire le manuscrit. Et puis sur des documentations plus récentes, enfin, allant du 19e siècle aux toutes dernières découvertes récentes. Donc un travail de lecture, de documentation pour mon mémoire en tout cas, et puis cette activité de recherche qui est une activité qui s'applique pour les objets, pour les archives, pour tout ce qui concerne le musée, oui.
Vous vous destinez de façon au métier d'un musée, hein, au métier du musée, donc voilà. Vous allez certainement encore continuer après votre service civique à apprendre, à vous enrichir, et vous passerez par d'autres structures telles que celle-ci, ou comment vous voyez ça, vous?
Alors moi, je me destine plutôt à la conservation, donc au métier de conservateur du patrimoine, de directeur de musée. Moi, je passe plusieurs concours, comme celui d'attaché de conservation, bon, celui d'assistant que j'ai obtenu, et puis celui de conservateur, donc le concours de l'Institut National de Patrimoine qui a lieu en août, et que je vais passer tous les ans jusqu'à l'obtenir. Voilà, donc je me destine vraiment à travailler dans des musées, à vocation archéologique ou beaux-arts aussi, puisque les deux m'intéressent.
De mon côté, c'est plutôt donc dans la médiation, donc travailler auprès du public et surtout donc dans la préhistoire. Je vais essayer de me recentrer autour de la préhistoire, donc poursuivre soit dans des sites archéologiques préhistoriques, soit dans des musées préhistoriques. Donc voilà, plutôt dans ce milieu-là.
Il y a toujours un intérêt du public pour les choses du passé. Est-ce que il y a parfois un dialogue aussi avec lui, ce public qui raconte ou qui narre des choses qu'il a vécues ou des choses qu'il connaît et dont il vous apprend peut-être aussi des choses?
Oui, tout à fait. Alors dans le public, il est assez divers puisqu'on a des visiteurs étrangers qui viennent beaucoup des Pays-Bas, qui visitent le musée. Et puis on a aussi des visiteurs un peu plus locaux. On a eu par exemple, alors je ne sais plus si c'était une dame ou un monsieur qui est venu voir un coffre, par exemple, que l'on a conservé au musée en disant « Ah bah, celui-là, je ne sais plus si c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui avait le même dans sa maison. » On a une dame aussi qui est venue pour voir un mannequin de cheval, en fait, qu'on a conservé dans la collection ethnographique. Et qui disait l'avoir vu plus jeune dans son enfance devant une vitrine, donc de Dee.
Par rapport aux périodes d'ouverture, on peut dire que c'est du 15 juin au 29 septembre, donc du mardi au samedi, de 14 à 18 heures, et les fermetures, les jours fériés. Connaître un peu plus, il y a le site internet, www.museedeDee.org, et puis Juliette Laburte, Manon Vialet et Jacques Planchon de nous avoir donné un peu de votre temps.
Mais c'était bien volontiers, et merci à vous.
Bonne fin de journée, au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir.